Deutsche Welle. Magazine Santé.
Bundocoxie, on peut. Blénorragie, on peut soigner. Syphilis, on peut. Chaudépice, on peut soigner. Bundocoxie, on peut. Chancremou, on peut soigner.
Cela fait des années maintenant que partout des campagnes de sensibilisation sont menées sur le sida. Pourtant, fin 2014, on comptait encore environ 6 millions de personnes vivant avec le VIH, dont 2 millions de nouvelles infections dans le monde. Des chiffres de l'Organisation mondiale de la santé qui estime à plus de 34 millions le nombre de décès liés au VIH-Sida à ce jour. La maladie continue donc d'être un problème majeur de santé publique. Bonjour à tous, Carole Assignon au micro. Parmi les 36 millions de personnes vivant avec le VIH-Sida dans le monde, l'Afrique subsaharienne en comptait à elle seule quelque 25 millions en 2014. Il s'agit donc de la région la plus touchée, une région qui concentre également près de 70% des nouvelles infections dans le monde. Le sida, on en parle certes, puisque ce ne sont pas les campagnes de sensibilisation sur le sujet qui font défaut. Pourtant, on estime qu'actuellement, seulement 51% des personnes infectées connaissent leur statut sérologique. Concernant la prise en charge des malades, des efforts ont été faits sur le continent africain pour faciliter l'accès aux antirétroviraux. Pourtant, nombre de pays africains connaissent encore des ruptures de stock. Et puis, il y a également parfois un problème de discrimination qui se pose, notamment envers les homosexuels. C'est le cas, par exemple, au Cameroun. Mais pour faire reculer davantage la maladie, les autorités projettent d'accentuer la sensibilisation et la prise en charge des groupes cibles tels que les travailleurs du sexe, les homosexuels, les transporteurs routiers, mais aussi les femmes enceintes. Par ailleurs, le pays affirme désormais avoir résolu le problème de rupture de stock des antirétroviraux. Les précisions sur place d'Henri Fodzo.
Il y a environ 10 ans, le taux de prévalence du VIH était de 5,4% au Cameroun. Entre 2004 et 2015, ce taux est tombé à 4,3%. Signe que la lutte a légèrement fait reculer la pandémie. Certaines régions du pays restent cependant plus touchées que d'autres, avec des taux se situant au-dessus de 6%. Des classes sociales et professionnelles restent aussi très touchées par l'infection. Il s'agit des travailleurs du sexe, des homosexuels et autres transporteurs routiers qui affichent un taux de prévalence foudroyant du VIH-Sida de 36,6%, selon le chef d'unité planification-évaluation au groupe technique régional de lutte contre le sida à Douala, Blaise Dupont-Minkem-Defo, qui affirme.
Avec les nouvelles évolutions, que ce soit au plan international et national, il y a les effets socioculturels, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer que la prévalence soit élevée dans ces populations clés-là, notamment avec l'activité sexuelle qui est faite de manière régulière chez les travailleurs de sexe. Et vous avez les homosexuels pour les problèmes morphologiques et autres qui peuvent expliquer que dans ces populations-là, la prévalence soit très élevée par rapport à la moyenne nationale et régionale.
Les travailleurs du sexe restent une catégorie insaisissable. Ils n'ont pas des problèmes d'intégration sociale. Les homosexuels, eux, ne sont pas acceptés dans la société camerounaise, soutient Achille, activiste à Douala.
Beaucoup d'homosexuels ont peur de s'exprimer à visage découvert parce que les menaces, les arnaques, le chantage persistent et continuent. Et tant que l'article 347 bis du code pénal qui réprime l'homosexualité de manière aveugle et discriminatoire au Cameroun persistera, les personnes homosexuelles auront toujours peur.
Quoi qu'il en soit, une nouvelle campagne de lutte contre le VIH-Sida est annoncée dès 2016 au Cameroun, ayant pour cible les homosexuels, les travailleurs du sexe et les transporteurs routiers, Confirmation du chef d'unité planification évaluation au groupe technique régional de lutte contre le sida à Douala.
Donc, il est important, compte tenu du fait que la prévalence est élevée dans ces populations, que des actions spécifiques soient mises en œuvre au sein de ces populations-là. Et pour que les actions spécifiques soient mises en œuvre, il faut bien qu'on puisse faire une analyse situationnelle. Quelle est la situation? Quels sont les différents facteurs qui peuvent amener à ce que les prévalences soient élevées dans ces populations-là? Et après cette analyse situationnelle, il faut bien évidemment élaborer des actions spécifiques à travers des plans d'action qui sont montés. Le nouveau plan stratégique 2014-2017 a mis un accent particulier sur ces populations clés-là.
Actuellement, le Cameroun est passé à ce qui est appelé l'option B+, c'est-à-dire le traitement gratuit pour toutes les femmes enceintes infectées au VIH. Blaise Dupont-Minkem-Defo souligne.
Je pense une action très forte que le ministre a dû lancer pour qu'aucun enfant qui est issu de mère séropositive ne soit plus infecté au niveau national. Parce que vous savez, comme on a l'habitude de dire, la jeunesse le fait de l'ance de la nation. Si on continue à avoir des enfants infectés, c'est un échec. Actuellement, pour la région du littoral, on est à plus de 100 sites qui sont sur option B+. Les médicaments sont disponibles. Et laissez-moi vous dire, avec les nouveaux financements, les médicaments seront disponibles pour pratiquement plus d'un an, je crois jusqu'à fin 2017. On est sûr d'avoir les médicaments pour toutes les femmes enceintes qui sont exposées au VIH.
Au Cameroun, outre les femmes enceintes infectées au VIH, les antirétroviraux sont gratuits pour toute personne infectée dont le taux de CD4 est en dessous de 500. Un accord financier de l'Organisation mondiale de la santé permet désormais aux autorités sanitaires du pays d'améliorer leur protocole de lutte contre le VIH-Sida jusqu'en 2017, voire au-delà. Bon à savoir, à l'échelle mondiale, selon cette organisation, le nombre de nouvelles infections a baissé de 35% et le nombre de décès liés au sida de 25% pendant les 15 dernières années. Quelques 16 millions de personnes, dont plus de 11 millions en Afrique, bénéficient aujourd'hui d'un traitement antirétroviral. Et l'OMS soutient encore qu'en Afrique de l'Est et en Afrique australe, 10 millions d'hommes ont accepté la circoncision. Un geste chirurgical qui réduit de 60% le risque de contracter l'infection à VIH. Henri Fotso, à Douala, pour la Deutsche Welle.
Outre la circoncision, rappelons que le risque d'infection est réduit par l'usage correct et régulier des préservatifs masculins et féminins. À titre de prévention, on recommande aussi la prophylaxie post-exposition qui consiste à prendre des ARV dans les 12 heures suivant une exposition au VIH pour prévenir l'infection. Cela permet de réduire la transmission du VIH dans un certain nombre de populations comme les couples hétérosexuels dont un partenaire est infecté et l'autre pas, les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, les femmes transgenres, les couples hétérosexuels à haut risque et les personnes qui s'injectent des drogues. Et concernant les consommateurs de drogue par injection, justement, il leur est recommandé à chaque injection d'utiliser des aiguilles et des seringues stériles. Et puis, il y a aussi des médicaments comme le Trovada, un traitement préventif contre le VIH destiné aux personnes à risque. Un médicament efficace à 86% que la France vient d'autoriser à titre préventif et qui sera pris en charge à 100% à partir de début 2016. La lutte contre le sida, nous en reparlerons la semaine prochaine puisque nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Nous ferons donc un petit bilan de ce qui est fait au Nigeria pour que la maladie recule.
Wow, wow, wow. Ce qui ne tue pas te rend plus fort. Nous sommes vivants, donc vous êtes morts. Ce qui ne tue pas te rend plus fort. Nous sommes vivants, donc vous êtes morts.
1 milliard, c'est le nombre de personnes dans le monde qui font leurs besoins à l'air libre, ce qui n'est pas sans danger. La défécation à l'air libre a en effet des conséquences directes sur la santé. C'est ce que nous explique Julien Nard, référent technique en eau, hygiène et assainissement pour l'organisation Action contre la faim.
Lorsqu'on fait ses besoins à l'air libre, on peut contaminer les cours d'eau, parce que la pluie ou l'eau peut entraîner des matières fécales dans les cours d'eau. On peut contaminer l'environnement, la nourriture. Si une mouche se pose sur une crotte laissée à l'air libre et après vient voler sur votre assiette, elle a des particules de matière fécale accrochées sous ses pattes. Ça va se déposer dans la nourriture, vous allez l'avaler et vous allez en même temps avaler toute une série d'agents pathogènes qui sont contenus dans ces matières fécales. Faute de latrine, on s'expose à toute une série de maladies transmises par les matières fécales. Donc en gros, toutes les diarrhées, le choléra, la dysenterie. On a aussi remarqué que un enfant exposé à des diarrhées à répétition pendant les premières années de sa vie aura plus de risques de développer une malnutrition.
Au-delà de l'aspect santé même, il y a tous les secteurs qui sont touchés, par exemple l'éducation même, la dignité même de l'être humain, et l'environnement également est concerné.
Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'à l'échelle globale, plus de 80% de l'eau que l'on utilise pour l'assainissement, la douche, la toilette, etc., est rejetée dans l'environnement sans passer par le moindre traitement. Donc, c'est des sources de pollution importantes pour l'environnement. La dignité, évidemment, lorsqu'on doit trouver tous les matins ou tous les soirs un endroit pour faire ses besoins à l'air libre, c'est exposé à une série de désagréments. C'est un problème de dignité, en particulier pour les femmes qui sont obligées de faire ça la nuit. Les gens n'ont pas forcément conscience du danger que représente la défécation à l'air libre. Après, il peut y avoir une contrainte économique à s'équiper de latrines, mais cette contrainte, elle est assez faible parce que finalement, avec, on va dire, entre 100 et 150 dollars, on peut très bien se construire ou se faire construire une latrine aux normes. En plus de ça, l'investissement est rentable puisqu'on va faire des économies en dépenses de santé. Donc à l'échelle des ménages, ça devrait être possible. Après, on a un problème qui est celui des infrastructures collectives en milieu urbain. On constate dans toutes les grandes villes en Afrique ou en Asie un accroissement très rapide des milieux urbains et souvent les réseaux n'arrivent pas à suivre. Et le problème, c'est qu'en ville, on n'a pas la place de creuser une latrine comme on pourrait le faire à la campagne. Parce que soit on ne peut pas creuser parce que c'est douloureux, soit la densité de population fait qu'il n'y a pas la place. Donc là, on sera plutôt sur des systèmes collectifs. Et là, effectivement, ça, c'est plus cher comme investissement. Donc là, c'est la municipalité ou le gouvernement qui doit prendre ses responsabilités. L'assainissement doit être un service public planifié et financé par une politique d'investissement de la part des autorités politiques.
Et ce qui veut dire qu'au-delà de la question du financement, il faudrait quand même aussi beaucoup sensibiliser les gens.
Tout à fait. Je pense qu'une condition essentielle du succès, c'est effectivement la sensibilisation pour prendre ses responsabilités pour l'assainissement.
Et c'est déjà la fin de ce magazine santé. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.
Comprenez-vous. Ah putain, j'ai oublié mon texte, putain, je l'ai écrit tout à l'heure, j'étais aux toilettes. Putain.
Ah ça va quand même.
Ah j'ai oublié l'examen. De toute façon c'est un texte juste avant la poser comme ça.
Non, t'as raison en vrai.
Ou bien.